foi et turbulence.
Alors bonjour et salutations à tous et à toutes. Ici François Gloutenay, vous êtes à l'écoute de l'émission Foi et Turbulence. Nous sommes le mercredi 4 mars 2020. Alors bienvenue à cette table ronde qui, deux fois par mois, accueille des chroniqueurs, des observatrices et des journalistes qui ont le mandat d'analyser l'actualité récente. Nos invités viennent nous aider à comprendre les enjeux derrière les faits et les événements qui nous sont rapportés quotidiennement. Alors, qu'est-ce qu'on demande à ces spécialistes? Bien, c'est de nous aider à chercher, mais surtout de trouver un peu de sens et d'humanité au milieu de toutes les informations qui nous submergent parfois. Ce qui intéresse nos analystes, c'est toute l'actualité, qu'elle soit politique, sociale ou religieuse, tant nationale qu'internationale. Alors, cette semaine, trois commentatrices et commentateurs viennent discuter et débattre de leur point de vue sur les événements des derniers jours et des dernières semaines. Je vous les présente. Louise-Édith Tétrault, directrice de la revue Rencontre, une publication du Centre culturel chrétien de Montréal. Bonjour, Louise-Édith.
Bonjour, François.
Participe à cette table ronde Simon Maltais, éditeur adjoint au livre religieux aux éditions Novalis Bayard Canada. Bonjour, Simon.
Bonjour, François.
Foi et Turbulence accueille aussi cette semaine Louis Rousseau, professeur émérite au département de sciences des religions de l'UQAM. Bonjour Louis.
Bonjour François.
Alors aujourd'hui, il sera question du COVID-19, du conflit avec la Première Nation des Wet'suwet'en et des révélations sur Jean Vanier. Mais d'abord, les élections présidentielles américaines. Alors, vous le savez certainement, hier soir, et encore, on n'a pas encore tous les résultats, mais hier, c'était le super mardi. Dans 14 États américains, dont la Californie et le Texas, on a choisi les délégués en vue de la Convention démocrate de Milwaukee de mi-juillet. C'est à ce moment-là qu'on va choisir l'adversaire de Donald Trump à l'élection présidentielle du 3 novembre 2020. Hier, un total de 1357 délégués étaient désignés en une seule journée, soit un peu plus du tiers de tous les délégués en jeu dans les primaires et caucus. On en a besoin de 3979 là, qui seront désignés d'ici la Convention démocrate. Pour obtenir l'investiture du Parti démocrate, un candidat doit emporter une majorité de délégués. Et cette année, le chiffre magique est de 1991 délégués pour obtenir cette nomination-là. Alors, la Californie, par exemple, hier, votait pour l'obtention de 415 délégués. Si vous habitiez au Texas, c'était pour 228. Mais si vous étiez au Vermont, 16 délégués seulement pouvaient être élus hier. Alors, il y avait 28 candidats qui ont brigué l'investiture du Parti démocrate. Vous auriez bien de la difficulté à vous souvenir de tous ces noms-là. Mais il n'en reste que 5 finalement. Bernie Sanders, le sénateur du Vermont. Joe Biden, l'ancien vice-président des États-Unis. Elizabeth Warren, la sénatrice du Massachusetts. Michael Bloomberg, le milliardaire et philanthrope. Et Tulsi Gabbard, qui est la représentante d'Hawaï. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, en ce matin là, du dur mercredi? Pour bon nombre de gens, c'est une surprise. Joe Biden est en avance. Allez-y, Louise-Édith Tétrault.
Bon, c'est pas tellement une surprise. Je pense que Sanders a été bien servi par les trois premiers États où ont eu lieu les primaires ou les caucus. Et là, on est revenu peut-être à une situation un petit peu plus normale. Mais la question qui se pose, en fait, c'est est-ce que les États-Unis sont mûrs? Est-ce que le peuple américain est mûr pour la social-démocratie qui est mis de l'avant par Sanders de façon assez, bon,
radicale? C'est pas un socialiste, mais... c'est pas un socialiste qu'on dit?
Ben, c'est un social-démocrate, oui, je voilà, pense que ouais. Quand on lit ses livres, quand on regarde son programme, etc. Sauf qu'il pousse ça le plus loin possible dans le contexte américain. Donc, il y a quand même beaucoup de choses intéressantes dans cette campagne. D'abord, il y a un choix. Il y a un choix en deux orientations très nettes, très claires, deux visions de l'économie, de la société. Ce que propose Sanders, c'est une réforme sociale en profondeur. Et l'autre, c'est la continuation, au fond, de la présidence de Barack Obama. Quelque chose qui, avec lequel les Américains sont assez familiers, connaissent déjà. C'est un anniversaire aussi. C'est la première fois depuis un siècle qu'un candidat se présente avec l'étiquette socialiste. La dernière fois, c'était Eugène Debs en 1920 qui avait eu près d'un million de voix. Mais là, il y avait un parti qui lui était propre. Cette fois-ci, ce n'est pas le cas. C'est dans le cadre du Parti démocrate. Donc, un siècle plus tard, cette orientation social-démocrate revient à la mode pour une partie de la population. Et en particulier chez les Hispaniques, chez les jeunes, où Sanders domine carrément. Chez les gens de moins de 30 ans, par exemple, les électeurs de moins de 30 ans, il a un score extraordinaire. C'est la première fois aussi qu'un candidat se finance exclusivement avec les dons de particuliers, de citoyens, avec une moyenne de dons d'à peu près 18,50 $. Et il a amassé seulement dans le mois de février 42,5 millions. Et il a suffisamment d'argent pour aller jusqu'au bout. Donc, il a un financement populaire. Et ça, c'est déjà une révolution aux États-Unis, parce qu'en général, c'est pas comme ça que ça se passe. Et les sommes en jeu sont astronomiques, comme on peut le voir avec Bloomberg, par exemple, qui a dépensé près de 500 millions en publicité télévisée, dans les journaux, etc. Autre chose aussi, Sanders, en fait, ça fait 4 ans qu'il prépare son retour dans les candidats. Et il a monté une organisation sur le terrain qui l'a assez bien servi. La question qu'on peut se poser, est-ce qu'il n'est pas... Par exemple, des sondages hier montraient que les électeurs démocrates, ils les avaient convaincus de la supériorité d'un système de santé publique étatisé comme on en a partout en Occident. Mm-hmm. Donc ça, il a réussi à marteler ce point-là de son programme, mais il a ouvert des fronts très, 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 très nombreux. Est-ce qu'il n'y en a pas trop ouvert? Par exemple, la question de rembourser la totalité des dettes étudiante, c'est des sommes absolument astronomiques. D'un côté, ça lui assure une base chez les jeunes, et en particulier chez les jeunes instruits qui font des études supérieures et qui se trouvent endettés de façon extraordinaire. Mais aussi, ça peut faire peur à toute une autre frange de leur électorat, en particulier les gens plus âgés qui, évidemment, ça ne les concerne plus. Et je me pose la question, est-ce qu'il n'a pas ouvert trop de fronts avec toutes sortes de propositions qui vont toutes dans le même sens, mais qui peuvent faire peur à une partie de l'électorat américain.
Mais Louise-Édith, quand on regarde les résultats d'hier, toutefois, on a l'impression que Bernie Sanders a été sanctionné justement pour son ouverture ou son progressisme ou son socialisme. C'est visiblement Joe Biden là,
Biden a pris la tête. Et je dirais que le point faible de Sanders, c'est l'électorat noir. Parce que s'était vanté, surtout après le Nevada, qu'il est à la tête d'une coalition de tous les types d'Américains visiblement, ça n'a pas fonctionné si bien que ça auprès de l'électorat noir, et en particulier l'électorat noir du Sud. Parce que l'électorat noir des grandes villes de l'Ouest ou du Nord, c'est pas passé encore, ou les résultats en Californie sont plutôt bon. Donc, c'est plutôt dans tout le Sud traditionnel où la population noire, d'une part, est très attachée au souvenir de Barack Obama et des années Obama, et donc associe ça à Biden. La population y est assez âgée et plutôt conservatrice sur le plan des mœurs, sur d'autres plans, des gens plus religieux que la moyenne, etc. Donc, Biden a fait très, très bien, là. Il a repris la tête, mais c'est pas terminé. Mais on peut douter fortement que Sanders réussisse, parce que s'il n'atteint pas 1991 délégués, ça se jouera à l'heure de la convention. Exactement. Qui aura lieu à Milwaukee en juillet. Et à ce moment-là, les super-délégués vont se ranger tous du côté de Biden. Et donc, il aurait fallu qu'hier, déjà, il soit en tête pour que le momentum soit de son côté.
Alors, continuons justement sur les résultats d'hier. Allons-y avec Louis Rousseau. Il reste que hier matin, Joe Biden n'était pas le favori. On avait l'impression qu'il était le perdant de toute cette grande course-là et qu'on a été surpris quand même par les résultats. Bon nombre d'États ont voté du côté de Joe Biden.
Il avait eu le début d'une résurrection quelques jours auparavant.
Oui.
Sauvé par la Caroline du Sud, où un électorat où la composante noire est considérable et lourde, lui avait donné une poussée auquel personne ne s'attendait. Lui continuait à dire « Oui, attendez qu'on arrive là-bas, je ne sais pas s'il y croyait », mais il était de plus en plus faible, fragile, il manifestait une absence de charisme, il y avait presque tous les défauts qui faisaient que presque tout le monde disait « Bon, il est fini, pourquoi n'a-t-il pas retiré sa candidature ?» C'était quelque chose qu'on attendait. Donc, il y a là quelque chose de nouveau qu'il faut essayer de comprendre, et ce n'est pas ce matin qu'on va avoir l'hypothèse la plus explicative, définitive, mais moi, ce qui me frappe, c'est deux choses. L'importance dans le vote démocrate d'un objectif. Il faut battre Trump. Bon. Le fait que ce qui vient d'être souligné, Sanders ait été perçu unanimement, en quelque sorte, comme, et lui-même employait le terme de « nous sommes au début d'une révolution ». Le brave Sanders, hélas, n'a pas encore digéré ses convictions de jeunesse où le terme de révolution était entièrement positif. les Américains ne sont pas très ouverts à ce qui se passe en Occident en général, et le monde, c'est eux. Or, eux, c'est l'idée de nous sommes le pays de « il n'y a pas d'excès ». On est un équilibre extraordinaire. Et donc, la pesée, moi, ce qui me frappe, c'est la pesée dans la culture américaine de l'idée de centre. Je veux pas d'extrême, ni d'un côté, ni de l'autre. Évidemment, ils se font scalper par l'autre côté, mais qui se cachent sous le fait que c'est quand même notre tradition, etc. Le grand capital, les Américains parviennent pas à détester la domination par les gens les plus riches. La majorité est au centre. Et ça, c'est ça qui a... Moi, c'est ce qui me frappe, la pesée de l'opinion moyenne. Il faut pas toucher aux structures. Ah, la campagne qui a suscité beaucoup d'intérêt, on vient de le souligner, de Sanders, était exagérée en quelque sorte, la portée révolutionnaire. En fait, Sanders proposait ce qui se passe au Canada. j'ai pas l'impression qu'on vit dans un pays où il y a une révolution.
Exact, ouais.
Donc ça, c'est assez important. Et c'est sur ce fond-là, je pense, que bien des gens ont changé d'opinion, se sont dit, là, Sanders, il risque de gagner et là, on va perdre notre objectif qui est, faut sortir Trump.
Oui, justement, si on veut sortir Trump aux prochaines élections, il faut absolument que ce soit un candidat qui, non pas lui ressemble, mais qui est certainement pas aussi à gauche là, que Bernie Sanders. C'est aussi votre évaluation, Simon?
Ça dépend. En même temps, Trump a été tellement libéral dans ses cadeaux, finalement, aux plus riches. Et disons que sa présidence a tellement accentué beaucoup accentué, en fait, les écarts de richesse. C'est pas surprenant non plus qu'un mouvement comme celui de Bernie Sanders prenne de l'ampleur devant un extrême. Hein, un extrême en attire un autre. Puis encore là, comme le dit bien mon collègue, on s'entend que les propositions de Sanders sont extrémistes par rapport dans le contexte américain, bien mais sûr, ressemblent en fait beaucoup plus à ce qui se fait chez nous et ce qui est considéré comme une position de centre ici presque même. Donc c'est pas surprenant que ça se développe, mais en même temps, je pense que l'électorat américain, il ressemble un peu justement à l'électorat québécois, hein, qui où est-ce qu'on on veut du changement, mais pas trop. Et il faut que ça reste dans des balises relativement respectables. Et Joe Biden incarne tout à fait ça. Le problème de Biden est son manque de charisme. Très clair. Et c'est ce qui fait que les démocrates se retrouvent peut-être un peu pris entre le choix choix entre un candidat plus avalable, on pourrait dire, mais non charismatique, et un candidat qui peut-être va toucher plus leurs valeurs, mais qui brasse un peu trop la cage. Et finalement, ben, c'est le plus grand allié des démocrates dans toute cette histoire-là, c'est peut-être le COVID-19.
Oui, on va revenir sur le COVID-19, mais pensons quand même, il y a déjà quelques semaines, là, on disait qu'il y avait un favori, en tout cas qui était émergent, qui était étonnant, c'était Buttigieg là, qui a quitté. On mettait beaucoup d'espoir aussi dans Elizabeth Warren, qui aurait pu très bien remplacer Mme Hillary Clinton à la tête du Parti démocrate. Il y avait M. Bloomberg qui était vu comme celui qui attendait, mais qui préparait pour faire un grand coup, justement, lors du Super Mardi. C'est ça qui est aussi fascinant à l'intérieur de ces élections-là, c'est de voir ces changements qui vont sans arrêt, alors que du côté du Parti républicain, on sait déjà là, qui sera le prochain chef ou sera élu à l'approbation. Allez-y, Louise-Édith.
J'ai parlé d'Elizabeth Warren, qui est une personne très volontaire, qui dit qu'elle ira jusqu'au bout. Je ne sais pas si elle va le faire, mais en tout cas, c'est ce qu'elle disait hier. Là. Elle était au Michigan, un État très important, très, très industrialisé, qui a beaucoup souffert des politiques et de la crise et tout ça. Madame Warren est docteure en droit. Elle a fait beaucoup pour, entre autres, la promotion de la protection des consommateurs. Elle est à l'origine de législations importantes, etc. Donc, c'est son résultat dans toutes les primaires jusqu'ici est assez décevant. On peut dire que c'est très décevant. Hier soir, elle s'est classée troisième dans son propre État où elle est sénatrice. Alors, c'est vraiment pas un bon résultat. Et le Massachusetts aussi a échappé à Bernie Sanders. C'est pourtant un État dit un des plus progressistes aux États-Unis. Alors, ça, c'est un... Et le Minnesota aussi, un autre État qui est allé du côté de Biden. Donc, je pense que les États... Carrément, le peuple américain ne semble pas prêt à avoir une femme présidente. C'est décevant, mais elle aurait pu normalement se classer beaucoup mieux que ça dans la course. Mais il faut se rendre à l'évidence qu'elle ne perce pas.
Alors, le suspense continue visiblement. Alors, on n'a pas tout résolu, en tout cas, sur la politique américaine hier lors du Super Mardi. Alors, à surveiller, il y aura d'autres encore rendez-vous électoraux qui vont survenir. Je vous rappelle là, qu'il reste toujours 5 candidats, Bernie Sanders, Joe Biden, Elizabeth Warren, Michael Bloomberg et Tulsi Gabbard pour la course à la chefferie là, pour les démocrates. Alors, à voir. Probablement que dès cette semaine, peut-être bien on parle même que M. Bloomberg pourra annoncer son désistement. Ça reste à voir si, effectivement, il va se rendre jusqu'au bout. Alors, on verra. On en reparlera certainement en Foi et Turbulence. Alors, les chiffres ont déjà augmenté ce matin, mais hier soir, vers 23h, il y avait 30 cas de COVID-19 au Canada. Ça peut-être pas changé, là, si vous écoutez l'émission un peu plus tard aujourd'hui, en rediffusion ou cette semaine, là. Mais il y avait 30 cas au Canada, 20 en Ontario, 9 en Colombie-Britannique et 1 au Québec. Mais c'est dans le monde où ça change sans arrêt. Alors, à 23h hier soir, il y avait 93 000 cas dans le monde, 80 000 en Chine, 5 200 en Corée du Sud, 2 500 en Italie, 2 300 en Iran. Les chiffres ont beaucoup augmenté ce matin. Il y avait eu 3 198 décès hier soir à 23 heures, dont 3 000 en Chine, 79 en Italie, 77 en Iran. Alors, il n'existe pas pour le moment aucun vaccin pour se protéger contre l'infection à coronavirus humain. L'Agence de santé publique du Canada a évalué le risque pour la santé publique associé au COVID-19 comme étant faible pour le Canada. L'évaluation du risque est effectuée au fur et à mesure que de nouveaux renseignements sont disponibles. Le gouvernement du Canada recommande aux Canadiens d'éviter tout voyage non essentiel vers la Chine en raison de l'éclosion du COVID-19. Et depuis quelques jours, bon nombre d'événements internationaux sont reportés à plus tard en espérant qu'on puisse trouver une situation à tout ça. Alors, où est-ce qu'on en est? Où en est notre monde aujourd'hui? Simon, c'est la perspective des guerres rassurantes.
Il faut relativiser tout ouais. ça parce que on oublie en fait un grand tueur qui en fait un grand virus qui est tueur davantage que le COVID-19, qui est la grippe,
oui. hein,
qui revient chaque année et qui tue jusqu'à 10 000 personnes au Canada à chaque année. Donc, d'un point de vue mortalité, le COVID-19 est pas si inquiétant. C'est une grosse grippe. Les gens qui sont décédés, la plupart avaient des conditions médicales particulières ou étaient finalement, faisaient partie des populations qu'on dit vulnérables, mm-hmm. les personnes âgées, les enfants, tout ça. Donc, il faut relativiser. Maintenant, le problème hein, du COVID-19, c'est que puisque c'est une nouvelle souche, il n'y a pas de poche de résistance dans les populations, ce qui fait qu'une fois qu'il arrive dans un nouveau secteur, il se répand rapidement. Et c'est ce qu'on voit. La quantité de personnes infectées augmente de façon exponentielle, alors que le nombre de cas, de décès, lui, progresse bon an, mal an, mais oui, beaucoup plus lentement. Ce qui est intéressant, par contre, à savoir, j'ai oublié ce que je voulais dire qui est intéressant.
mais il reste que pour les autorités, c'est un casse-tête important parce qu'on voit bien que la Chine a bien réagi dans tout ce domaine-là, mais il reste que certains pays comme l'Iran, on semble voir ça de façon plus tranquille. En tout cas, on n'a pas l'impression. Allez-y, continuez.
En fait, je viens de me rappeler ce que je voulais dire. En fait, ce qui est intéressant de voir en ce moment, c'est que le nombre de cas en Chine a oui. atteint un plateau et même le nombre de cas, des nouveaux cas déclarés, il y a beaucoup plus de nouveaux cas déclarés à l'extérieur de la Chine qu'à l'intérieur, qu'ailleurs dans le monde. Donc, on sent, en tout cas, à tout le moins en Chine, le virus a probablement fait son chemin et il va tendre finalement à disparaître. Pas à disparaître, mais à perdre en virulence.
Alors, allez-y, Louise-Édine.
Oui, bien, les résultats en Chine, c'est en fait, 50 millions de personnes ont été mises en quarantaine. On peut dire qu'on prend les grands moyens pour maintenir ce fléau-là et minimiser les pertes de vie et surtout les conséquences économiques. Parce qu'il y a beaucoup de conséquences économiques. Annulation d'événements publics, oui. tu l'as dit tout à l'heure, fermeture du Louvre, le grand musée à Paris depuis samedi dernier, beaucoup d'absentéisme évidemment parce que si on est en quarantaine, on ne va pas travailler, baisse de tourisme oui. importante. Alors, on estime qu'en Europe, 1 milliard d'euros par mois sont perdus actuellement là. Alors, si cette épidémie dure encore pendant plusieurs mois, ce sont des pertes très, très importantes pour des pays dont la croissance est faible, comme la France qui venait juste de sortir un peu d'une période où très, très mauvaise sur le plan économique. Bien là, on revoit les chiffres à la baisse carrément à cause de ça. Baisse à la bourse également.
Oui.
Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'aux États, l'Organisation mondiale de la santé estime la menace, elle, très élevée, pas pour le Canada. Okay. Là. Et dans le cas des États-Unis, les épidémiologistes considèrent qu'il y a un risque plus important qu'ailleurs à cause de la faiblesse de la couverture médicale pour une bonne partie de la population. Et les personnes en situation illégale ont peur d'aller à l'hôpital parce qu'elles craignent d'être expulsées. Donc ça, c'est un élément important. Et il n'y a pas de garantie de quand on s'absente pour des causes médicales, de ne pas perdre son emploi. C'est le seul pays occidental où on ne garantit pas l'emploi en cas de maladie comme ça. Donc, les gens qui seraient, par exemple, atteints du virus auraient peur de cesser de travailler, d'être mis en quarantaine parce qu'ils n'ont plus aucun revenu et peuvent être congédiés carrément. Alors, les États-Unis, jusqu'ici, il y a 6 morts, je crois, et ce n'est pas encore très, très important comme phénomène. Mais si ça le devenait, là, ça pourrait avoir un impact sur la politique, sur la course Alors, les élections.
Le président Trump, il y a quelques jours, a fait une conférence de presse remarquée, en tout cas sur le coronavirus. Il a aussi dit, évidemment, il a repris cet argument-là de la grippe qu'on vient d'évoquer ici.
La grippe, il a dit plus stupide que ça. Il a dit que ça va partir tout seul au printemps avec la chaleur.
C'est ça. Mais il risque que ça risque d'être un élément important dans la prochaine campagne électorale. C'est clair. Allons-y, Louis, là-dessus, vos observations là, sur toute cette histoire-là.
Moi, j'ai deux, trois choses qui me frappe pour être complémentaire par rapport à ce qui vient d'être dit. On assiste pour la première fois depuis longtemps, je ne sais pas si ça a déjà été là quand même, à une espèce de peur mondiale en direct. Mm-hmm. C'est-à-dire que finalement, quelque chose qui se passait dans une grosse ville chinoise, mais que peu d'entre nous connaissions, se met à être télévisé presque en direct, malgré les filtres de la censure chinoise. Et tout d'un coup, on parle de quelque chose qui se contamine. C'est un nouveau virus qui s'est formé, qui a sauté la barrière animal-être humain. Et on assiste, alors qu'on parlait, on parle toujours de la mondialisation comme d'un phénomène essentiellement positif. Abattons les frontières, l'heure maintenant est à la circulation des biens et des personnes. Et la circulation des virus, qu'est-ce qu'on en fait? Ben alors, là, vite, fermons les portes, mettons tout le monde en quarantaine, etc. En d'autres termes, les vieilles structures qui assurent que le passage d'un État à un autre, d'une ville à une autre, sont, en quelque sorte, il y a des murs. Ben voici que, dans ce contexte-ci, une des stratégies, c'est de dresser les murs, de filtrer les gens quand ils arrivent à l'aéroport, etc., etc. Et c'est une stratégie défensive qui va complètement contre la libre circulation des biens, étant donné qu'aujourd'hui, avec la stratégie de... on produit, mais on n'a jamais de stock, les stocks, il y a un flux continuel qui alimente la production. Voilà que le flux est arrêté et que le thermomètre du virus, c'est la bourse. Ce qui est quand même, on peut en sourire avec tristesse, un indicateur assez peu imminent. Donc, d'une certaine façon, le rôle de l'État revient, le rôle des frontières revient, et en même temps, on voit aussi le rôle d'une gestion mondiale par les organismes des Nations Unies, qui, à ce moment-ci, sont l'Organisation mondiale de la santé est la seule dont nous dépendons pour avoir un suivi quotidien sur la circulation de ce virus. C'est des observations qui montrent comment ça trouble aussi les structures, en quelque sorte, provisoires que nous avons bâties depuis 50 ans.
Alors, un dernier mot, Simon?
Oui, bien, en fait, je pourrais dire que, justement, les critiques de la mondialisation qui étaient déjà sociales, politiques ou économiques ou même environnementales, bien, on peut rajouter celle de la santé maintenant. En tout cas, c'est démontré de façon très claire. Et on parle beaucoup d'une épidémie de physique, mais on parle aussi d'une épidémie de la peur, les communications, la rapidité de communication fait en sorte que ce sentiment-là se répand partout, au point même qu'on a craint en fin de semaine que le pape ait atteint du coronavirus.
Oui.
Étant donné qu'il avait un rhume et qu'il a annulé certains engagements. Mais bon, il a été testé négatif, donc rassurez-vous, le pape n'est pas atteint.
Alors, le virus de la peur, c'est ce qui nous fait le plus peur.
Oui, mais moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est ce qui s'est passé en Chine. Celui qui a révélé, en fait, l'existence de ce virus dangereux, eh bien, les autorités, dans un premier temps, l'avaient arrêté pour propagande anti-régime, etc. Donc ça, je pense que la population chinoise, ça fait partie d'un peu quel est l'impact de cet événement-là sur la perception des autorités en Chine, sur la censure qui existe de façon omniprésente?
Sur la réputation de leur président.
Sur la réputation du pays. C'est sûr que là, ils ont fait le maximum pour limiter, évidemment, les pertes de vie. Mais le fait que celui qui a été le lanceur d'alerte ait été arrêté, c'est certainement très mal perçu par la population. Et puis, il y a une certaine révolte sous-jacente là, qui va être alimentée par ce fait-là.
Alors, je vous rappelle que hier soir, le COVID-19 avait fait 3 200 morts, la majorité en Chine. Il n'existe pour le moment aucun vaccin pour se protéger contre l'infection à coronavirus humain. Alors, vous êtes toujours à l'écoute de Foi et Turbulence. Je vous rappelle les gens qui partagent avec nous leurs réflexions sur l'actualité récente. Louise-Édith Tétrault de la publication Rencontre, Simon Maltais de Novalis Bayard Canada et Louis Rousseau du département des sciences et des religions de l'UQAM, professeur émérite. Alors, les chefs héréditaires des Wet'suwet'en seraient parvenus à une entente de principe au cours de cette dernière fin de semaine. Il y a eu une rencontre avec la ministre Caroline Bennett, la ministre des Relations couronnes autochtones et un ministre provincial de la Colombie-Britannique. L'entente porterait sur les droits de propriété de cette nation autochtone. J'utilise le conditionnel puisqu'on ne connaît pas le contenu de cette entente-là. Et ils ne seront pas divulgués tant que les Wet'suwet'en n'aient tous été consultés, ce qui pourrait prendre jusqu'à deux semaines. On a l'impression, Louis Rousseau, que cette crise-là s'enfonce d'une certaine manière.
Effectivement, cette crise-là va beaucoup plus loin que ce que nous en avons surtout vu, c'est-à-dire les barrages sur ce qui fait ce grand et beau pays qui est le Canada, c'est-à-dire sa ligne de chemin de fer.
Ben oui.
Ça nous rappelle aussi, parce qu'on a besoin que ces choses soient rappelées, que cette ligne de chemin de fer a été précisément le grand instrument pour que la couronne britannico-canadienne occupe et se sent en légitime droit d'occuper et d'imposer sa loi. Les terres au Canada, ça s'appelle toujours, au Québec comme ailleurs, les terres de la couronne. Il n'y a plus. Et alors, avec cette façon-là, pour le Canadien moyen, le citoyen moyen, la terre, c'est soit propriété privée, soit s'il y a personne qui dit, qui a un papier pour dire je suis propriétaire d'eux, ça appartient à la couronne. Ben, le vrai problème, c'est que, en fait, les Indiens, dans la plupart des cas, pour de grands espaces en tout cas, n'ont jamais signé quoi que ce soit. Et là, je ne veux même pas rentrer dans la question. Les signatures données, ce qu'on appelle les traités, sont-ils valides pour autant qu'ils ont été faits dans des circonstances énormes? Donc, je reviens pour la question. Donc, c'est la question qui est posée là. Qui a le droit de décider qu'est-ce qu'on fait sur le sol qui est habité? Et là, il y a deux logiques. La logique de l'État canadien, qui dit c'est nous qui adoptons le cadre légal, et la logique des Premières Nations. Les Premières Nations, dans la plupart des cas, ne sont jamais soumises à l'État canadien. En tout cas, dans le cas des communautés du Pacifique, dont les Wet'suwet'en font partie, ils n'ont jamais signé aucun traité. Le terrain, le grand territoire qu'ils occupent, c'est leur territoire. Et le problème, c'est que la législation canadienne concernant les droits de passage, etc., ne prend pas en compte l'existence de droits autochtones, natifs. Et la compagnie a décidé qu'ils allaient consulter les chefs des
conseils de bande.
Des conseils de bande d'une certaine manière. Et qu'en fait, on a chez les Wet'suwet'en, comme par exemple chez nos Mohawks ici, deux types de direction. Celle qui agit dans le cadre de la loi canadienne, c'est-à-dire au fond, il y a un conseil de réserve qui a l'équivalent des droits à peu près d'un conseil municipal. Et le conseil traditionnel qui est basé non pas sur les individus en tant que tels, le citoyen, ça c'est notre droit occidental, mais sur l'appartenance des personnes à des clans. Nous sommes avec les Wet'suwet'en en présence d'une grande nation composée par 5 clans et qui a son propre mode de gouvernement. Les clans élisent des chefs de clans. Et dans le cas des Wet'suwet'en, c'est le chef traditionnel va choisir quelqu'un, généralement de sa famille, ou en tout cas de son clan. Pas forcément de sa famille directe, mais le clan, c'est une grande famille, si vous voulez être un peu mythique, mais c'est l'idée de la généalogie qui est derrière ça. Alors, le problème a commencé lorsque la compagnie de gaz a voulu s'introduire et en négociant uniquement avec les chefs selon le mode occidental, qui ne contrôle que 6% du territoire.
Alors, mais ça a été une surprise pour tout le monde, au fond, tout ça. C'est comme oui. si, pour la première fois, on se rendait compte qu'il y a deux systèmes de gouvernement.
Oui, mais c'est ça le vrai problème. Et le système de délibération clanique est un système lent. Pourquoi il est lent? Parce qu'il faut parvenir à l'unanimité. Donc, on se parle, comme on dit au Québec, OK? Et on se parle longtemps. Et là où nous en sommes présentement, c'est que le gouvernement vient de reconnaître officiellement comme applicable le jugement de la Cour suprême qui reconnaissait que c'est les chefs de clan et c'est les clans qui ont la responsabilité du territoire. Et je pense que ce que nous verrons, c'est que le gouvernement de la Colombie-Britannique et du Canada reconnaissent la validité, reconnaissent par conséquent qu'il ne peut rien se faire sur ce territoire et que la police montée n'a pas le droit d'y être, à moins que les clans décident qu'il en va de leur intérêt. On ne peut pas savoir où ça s'en va, donc il y aura une deuxième étape. Mais présentement, le gouvernement s'est engagé à mettre par écrit, parce que nous, les Occidentaux, il faut que ça soit écrit,
bien sûr.
La reconnaissance de ce droit-là. Et c'est parce qu'il y a une complicité de la population, à commencer par les Mohawks ici, qui ont le même mode de direction par les clans traditionnels. C'est pour ça que la population voit le lien entre le problème écologique et le droit canadien qui permet essentiellement, pourvu que tu aies la majorité plus un, tu peux faire ce que tu veux. Alors là, c'est l'unanimité. Les clans fonctionnent à l'unanimité. C'est long. Donc, donnons autant le temps qu'il faut.
Alors, mais rappelons qu'en fin de semaine, là, l'entente qui a été signée, en tout cas qui, sur laquelle on ne connaît pas, mais portait essentiellement sur les droits de propriété et justement ce jugement.
Après, à régler, est-ce que les clans veulent bien que la compagnie passe?
Exact. Et ça on n'en a pas parlé et tout ça. On a l'impression que c'est un débat qui risque d'aller beaucoup plus longtemps là, de ce côté-là. Allez-y, Simon, vos observations sur cette crise-là.
Bien, en tout cas, moi, personnellement, j'espère que c'est un débat qui va durer encore longtemps et qui va aller beaucoup plus loin. C'est une question, le droit de propriété des peuples autochtones, mais c'est aussi une question tout aussi importante, leur statut en tant que citoyen canadien, leur statut par rapport aux autres peuples qui constituent le Canada. J'aime le rappeler régulièrement, mais leur statut est régi par la loi sur les Indiens, qui porte bien ce nom-là. Qu'ils n'ont pas voté, bien sûr, qui date de 1878 et qui a été enchâssé dans notre formidable Constitution. Ce qui est en soi un problème, parce que non seulement la loi est loin d'être, comment je pourrais dire, à jour, hein, tout le moins, la loi ne tient pas en compte les réalités contemporaines et la loi est coloniale. Et elle est intouchable du point de vue, en tout cas, de tous ceux qui veulent, qui craignent de rouvrir la Constitution. Et c'est pour ça que, personnellement, j'espère que ça va aller plus loin et qu'on en vienne à réaliser que, bon, ben, on n'a pas le choix, il faut rouvrir la Constitution et refaire un pacte des peuples du Canada qui tient compte de la réalité contemporaine.
Alors, depuis quelques années, on parle beaucoup de réconciliation. Alors, c'est peut-être un geste qu'on aurait dû poser il y a bien longtemps, tout ça, mais il reste qu'il y a des blocus. Il reste qu'il y a des voies ferrées qui sont fermées, qui sont obstruées depuis déjà quelques semaines. Et on sent qu'il y a une certaine colère, en tout cas, qui monte dans l'opinion publique, en tout cas du côté du Québec. Doit-on intervenir avec force, tout ça? Il y a des injonctions qui ont été demandées. C'est peut-être pas le cas partout à l'intérieur du Canada, où des fois on privilégie davantage l'approche qu'a utilisée le premier ministre Trudeau, par exemple, de réconciliation. Il reste qu'au Québec, il y a des voix qui s'élèvent pour demander un peu plus de vigueur dans ce débat-là. Un dernier mot,
Louise-Édith. Oui, quand on écoute la radio, on voit que l'opinion publique n'est pas tellement prête à... Elle a une certaine sympathie, d'une part, pour la cause amérindienne, mais en même temps, il ne faut pas que ça nous dérange, il ne faut pas que ça nuise à l'économie, il ne faut pas que ça nous empêche d'aller travailler, ça ne veut pas que ça... Et là, il y a une certaine... oui. Et moi aussi, ce que je crains, c'est que si... c'est aussi l'intervention de groupes qui ne sont pas, eux, des Amérindiens du tout, et qui on peut qualifier d'extrême-gauche, c'était le cas à Saint-Lambert, entre autres, là. Et là, la colère populaire peut engendrer la présence de contre-groupes d'extrême droite cette fois. Et ça, je crains ça, là, que si à tout bout de champ, on se met à bloquer des grandes voies de circulation, en particulier les chemins de fer, que la population, il va y avoir des groupes qui vont se constituer, là, puis vont aller dans le sens complètement de l'extrême droite. Ce qui est préoccupant aussi, c'est l'attitude, la colère des gens en Alberta, par exemple, dans l'Ouest, et leur réaction par rapport à... Parce qu'eux, ils sont un peu dans le déni complet, là. Là, il y a une importante compagnie qui a renoncé à investir 20 milliards dans les sables bitumineux. Et la réaction, c'est la faute du gouvernement fédéral, c'est la faute des mesures environnementales. En réalité, la vraie raison, c'est que ce n'est plus rentable du tout parce que le prix du pétrole est trop bas. Donc, cette colère des gens de l'Ouest, elle peut se tourner aussi contre les Amérindiens et parce qu'ils ont l'impression que tout le monde, ils sont un peu paranoïaques, là. C'est la faute de tout le monde s'ils ne peuvent pas continuer comme avant à avoir une économie très, très prospère basée essentiellement sur le pétrole et le gaz. Donc, ça aussi, je pense que ça ne va pas nécessairement bien se passer dans les prochaines années, en particulier dans l'Ouest, à cause de ce déni, d'une part, et de la colère qui existe dans cette région-là.
Alors, je vous rappelle qu'en fin de semaine, les chefs héréditaires des Wet'suwet'en ont parvenu à une entente de principe au cours de la fin de semaine avec la ministre Caroline Bennett et un ministre provincial de la Colombie-Britannique. Mais on n'en saura pas davantage d'ici probablement deux semaines sur l'ensemble de cela. Alors, probablement qu'à notre prochaine émission, Foi et Turbulence, on discutera du contenu de cette entente. Alors, le Canadien Jean Vanier, qui avait fondé en France l'Arche, une association qui accueille des personnes ayant une déficience intellectuelle, est décédé à l'âge de 90 ans à Paris en mai 2019, il y a un peu moins d'un an. Eh bien, voilà que le vendredi 21 février, une enquête interne commandée par l'Arche internationale conclut que Jean Vanier a profité de sa position au sein de l'Arche pour avoir des relations sexuelles manipulatrices avec au moins 6 femmes. L'enquête, dont le résumé a été rendu public par l'Arche dès le samedi 22 février, rapporte les témoignages sincères et concordants de 6 femmes adultes et non handicapées. Les événements se sont produits entre 1970 et 2005, soit durant 35 ans. Ces femmes font état de relations sexuelles que Jean Vanier a initiées entre elles, généralement dans le cadre d'un accompagnement spirituel et dont certaines ont gardé de profondes blessures, précise l'enquête. Ces 6 femmes à qui Jean Vanier demandait de garder le secret, sans lien entre elles ni connaissance de leur histoire respective, rapportent des faits similaires associés à un discours supposément spirituel ou mystique destiné à les justifier. Ça a été tout un choc samedi matin lorsque les gens se sont réveillés pour découvrir cette histoire-là, Simon.
Ah oui, tout à fait, parce que bon, Jean Vanier, déjà à sa mort, on le voyait comme un saint.
Subito sancto, fait crier la foule.
Ouais. Exactement. C'était s'il y avait bien une figure du catholicisme mondial contemporaine qui semblait droite et irréprochable, c'était bien celle de Jean Vanier. Donc oui, ça a été un choc terrible, autant pour les catholiques moyens, mais aussi principalement pour les gens de l'Arche, les gens qui travaillent avec les personnes qui souffrent d'un handicap. Donc, une onde de choc terrible, puis un autre géant dont finalement l'histoire n'est pas aussi dorée qu'on l'aurait souhaité.
Oui, justement, Louise-Édith, quand on regarde tout ça, c'était probablement effectivement la dernière personne à qui on s'attendait ça. Peu importe qu'on l'aimait ou non, qu'on ait lu ses livres ou non, qu'on l'adulait ou non, c'était quand même une figure marquante de notre société. Quelqu'un qui parlait avec toujours émotion et sincérité, je pense bien. J'espère que c'était toujours avec sincérité qu'il parlait particulièrement des personnes les plus vulnérables. Il n'a jamais tiré profit d'une certaine manière financière de toute sa notoriété, tout ça. Et c'est pour certains, on peut comprendre qu'on a parlé de trahison lorsqu'on a appris cette nouvelle-là.
Oui, tout à fait. Ce qui est frappant, c'est qu'on a l'impression qu'il s'agit d'une double personnalité, de quelqu'un qui, c'est incontestable, a fait énormément de bien, a été créateur d'un mouvement nouveau, qui a plaidé la cause des personnes diminuées toute sa vie. Et d'autre part, quelqu'un qui pendant 35 ans, le 35 ans me frappe beaucoup, parce que là, il ne s'agit pas d'un événement isolé, de quelque chose qui...
C'est un style de vie, là.
Ouais. Et sur 35 ans, c'est vraiment... Alors, on a l'impression d'un mensonge, d'abord, et d'une double personnalité. C'est assez fascinant à observer, parce que jusqu'ici, la plupart des personnes qui ont été accusées d'abus, que ce soit sur des mineurs, c'était des personnes, justement, qui n'avaient pas nécessairement cette aura, là, de sainteté. C'était des gens qu'on pouvait qualifier presque tout en noir, mais là, c'est pas le cas du tout. Donc, je pense que moi, ce qui me frappe, c'est d'abord que l'Arche a super bien réagi face à ça, avec une transparence, avec le souci de voir le fond des choses, de connaître la vérité, toute la vérité. De ce point de vue-là, ils sont vraiment admirables. Et je ne crois pas que ça va détruire l'Arche. Non, je pense que c'est un mouvement qui va continuer. Les questions que je me pose, c'est au niveau des condamnations qui avaient été portées par les autorités ecclésiastiques contre Thomas Philippe.
Le père spirituel de Jean-Paul.
C'est exactement. Et contre son frère aussi, Marie-Dominique Philippe. Alors, les deux, dans les années 50, le premier en 56, le second en 57, sont interdits de tout ministère sacerdotal, d'accompagnement spirituel, etc. Et par la suite, on ne se préoccupe absolument pas de ce qu'ils deviennent, de ce qu'ils font, de leur relation justement avec Jean Vanier. C'est comme si c'est purement confidentiel.
Oui,
on veut cacher au fond que c'est pas très joli. Et on ne fait aucun suivi, on ne fait aucune vérification. Et évidemment, ces gens-là récidivent. Et là, font vraiment des dégâts importants. Donc, je pense aussi que au tout début de l'Arche, on n'a pas confronté non plus Jean Vanier sur ses relations avec Thomas Philippe. En tout cas, dans les premières années, etc., ça n'a pas été fait. C'est seulement à la toute fin, quand il y a eu commencé à y avoir des plaintes, que là, ce processus s'est enclenché.
Alors, vendredi dernier, quelques minutes après que la nouvelle soit sortie, d'abord dans le Globe and Mail, ensuite sur Radio-Canada et ensuite à l'agence de presse Présence, je me suis permis de téléphoner à Louis Pilote, le responsable national de l'Arche au Canada. Il était à presque minuit et je lui ai demandé de, tout simplement de commenter cette histoire-là. Et il y a eu cette phrase-là que je lui ai demandé de répéter. Il m'a dit « Ça signifie que Jean nous a menti pendant plusieurs années. » J'ai trouvé que c'était une phrase qui était tellement forte et je lui ai demandé d'être bien certain. J'avais bien compris, mais il m'a bien dit ça. Jean nous a menti pendant toutes ces années. C'est quand même un sentiment de trahison là, que bon nombre de gens ont eu.
C'est un sentiment qu'on peut tous comprendre très facilement parce que sur cette dimension de sa vie, il avait été interrogé depuis quelques années, surtout depuis l'apparition du fameux film là,
sur les religieuses abusées.
Les religieuses abusées. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, ça a déclenché chez les responsables de l'Arche une volonté. Et d'abord, ils avaient déjà, eux, interrogé Jean Vanier, qui leur avait dit non, il n'y a absolument rien, je ne suis pas du tout lié à ça, etc. Même si à la fin de sa vie, Jean Vanier disait, je suis angoissé parce que je me sens encore le fils du père Thomas. Et moi, cette phrase-là me fait entrer dans un niveau d'interprétation dont je pense qu'il est encore plus effroyable quand on le place sur ce fond-là. Il s'agit d'une situation d'inceste spirituel. On a d'un côté le père Thomas, qui est le père pervers, le père non pas au sens ecclésiastique, mais au sens des figures symboliques de base, et avec Jean Vanier, le fils soumis. Le fils soumis qui ne peut pas se révolter. Jusqu'à la fin de sa vie, il n'a pas voulu accepter de se rendre compte que les actes que son père lui demandait de faire étaient des actes qui étaient absolument contraires à la nature. Ce qui s'est produit, c'est que le père Thomas a introduit Jean Vanier dans une scène qui se passe dans l'ordre de la spiritualité. Bon, c'est une dimension bien connue. Et que dans cette scène de la spiritualité, même de la quête mystique, il lui a permis, il a organisé la scène, il a organisé le théâtre de la foi, des représentations croyantes de Jean Vanier, de telle sorte que Jean Vanier accepte de jouer un espèce de rôle sacramentel. Lorsque le père Thomas s'approchait d'une femme pour la caresser, il lui disait « Tu es Marie, je suis Jésus, et à travers mon corps et mes mains passe la grâce. » Écoutez, on est là, je le dis, ça va faire rire, mais pour qui connaît le sens de ces termes-là en christianisme, il utilise les représentations symboliques absolument fondamentales pour les travestir et assouvir purement et simplement sa libido. Je veux dire, l'horreur, on pourrait en parler longtemps, nous sommes là dans l'horreur totale et une situation d'obéissance au père chez Jean Vanier qui dure jusqu'à la dernière minute de sa vie. Donc, on a là un asservi. Le premier asservi, c'était lui.
Oui.
Bon, mais il a asservi ensuite. Deuxièmement, et on n'a pas beaucoup de temps, ce qui m'a frappé, moi, au point de départ, déjà depuis le film, c'est comment toutes les coutumes de régulation des rapports entre confesseurs ou directeurs de conscience et dirigés avaient sauté. Et ça, depuis les années 48-50, là, c'est pas simplement la révolution culturelle. Il y a des règles. En catholicisme, il y a une tradition de prudence et de gestion de ces rapports très dangereux entre le maître spirituel et la personne qui lui demande de le guider.
Peu importe qu'elle soit un homme ou une femme.
Peu importe que ce soit un homme et une femme. Et dans les rapports homme-femme, on avait créé dans les monastères la grille qui nous effraie. Mais je nous propose de comprendre à quoi ça sert la grille. C'est que c'est un éteignoir de concupiscence, pour employer une expression québécoise. on a beau vouloir, il y a la grille et il y a même un rideau derrière la grille qu'on n'ouvre pas forcément, de telle sorte que la conversation peut devenir très intime, mais les pulsions du corps sont bloquées en quelque sorte. Alors, tout ça a sauté. Le père Thomas recevait dans sa chambre les femmes. Jean Vanier recevait probablement dans sa chambre où il allait
à 11h le soir.
Dans la chambre de ses victimes. Tout cela se passait contrairement aux traditions et on l'a souligné tantôt, il y a eu par deux fois des interdits. Jean Vanier a rencontré Jean 23 et Jean 23 lui a dit quitter toute relation avec le père Thomas. Ce qu'il n'a pas fait. Ce qui nous en dit beaucoup sur l'esclavage de Jean Vanier lui-même. C'est un fils asservi. Alors là, je ne suis pas un psychiatre, mais on est dans une scène d'inceste sans qu'aucune de ces personnes-là soit équipée, comme les psychiatres le sont, de quelqu'un qui peut les corriger.
Mais tous ces événements-là se sont passés il y a longtemps. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'on les apprend. Et ça, c'est particulièrement choquant. Je m'adressais à Simon parce que vous êtes un éditeur. Vous êtes aussi... vous travaillez chez Novalis, Bayer Canada. C'est quand même le grand éditeur de Jean Vanier. Il y en a d'autres, bien sûr. Mais vous avez publié plusieurs livres, que ce soit chez Bayer, mais aussi chez Novalis. Quand on a un livre signé par Jean Vanier, c'est un best-seller. on est où depuis une semaine là, devant ces livres-là?
Bien, on est trahi, nous aussi, hein, parce que Jean Vanier, c'était un gage de confiance. Et là, justement, on se retrouve avec des titres qui finalement, sont pervertis. Et en ce moment, on en est... La politique de Novalis en ce moment est de ne plus faire la promotion des titres de Jean Vanier. Nous sommes en train de tous les relire pour voir, à la lumière, finalement, des révélations, pour voir si, décider si nous arrêtons carrément de les vendre. Aux États-Unis, les Liturgical Press a pris cette décision-là.
De cesser de les vendre.
Donc, c'est pas impossible qu'on le fasse de notre côté, mais on souhaite faire le travail comme il faut. Par contre, je tiens quand même à signaler que dans les prions en église du mois de mars, du début mars et du 22 mars, malheureusement, les prions sont préparés plusieurs mois à l'avance. Il y avait des publicités de ces ouvrages-là. Donc, c'est malheureux. Les ouvrages sont rendus en paroisse. On peut pas les prions sont rendus en paroisse. On peut pas les faire revenir. Donc, il va y avoir des publicités sur des ouvrages de Jean Vanier. Mais au-delà de ces publicités-là, c'est terminé. Nous n'en faisons plus et c'est regrettable. Nous en excusons à l'avance.
Alors, c'est un devoir de mémoire que l'Arche a fait, mais c'est aussi ce que tout le monde doit faire là maintenant. Je pense entre autres à ces écoles qui portent le nom de Jean Vanier et qui se demandent si elles ne doivent pas changer tout simplement de nom, le nombre de salles, le nombre de prix qu'il y avait au nom de Jean Vanier.
Surtout dans les écoles, hein, parce que le nom là est le modèle.
Ah oui, c'est ça, exactement.
Bon, est-ce qu'il faut tout, moi, c'est une autre question, faut-il tout liquider? Il est bien possible que beaucoup de ce qu'il a écrit soit d'une qualité, mais c'est intéressant, parce que dans le monde religieux et spirituel, ça pose le même problème qu'un grand cinéaste qui fait de super bons films, mais dont la vie personnelle est tragiquement, comment dire, pervertie.
Oui, voilà. Et on analyse chacune des images pour savoir s'il n'y a pas un message à l'intérieur de ces images-là, si ce n'est pas offensant pour les victimes.
Moi, j'aurais envie de lire Jean Vanier maintenant. Je n'ai jamais lu Jean Vanier.
Oui.
C'est pas quelqu'un qui m'attirait particulièrement, mais c'est sûr que c'est un grand auteur.
Alors, un dernier mot, Louise-Édith, sur cette histoire-là.
Oui, la bonne nouvelle, c'est aussi que les Dominicains, évidemment, le père Thomas était un Dominicain, son frère aussi, ont lancé deux enquêtes. Une première sur le rôle de l'ordre dans le non-suivi des condamnations qu'ils avaient reçues. Et l'autre, une étude théologique des écrits et de toute la spiritualité du père Thomas. Qu'est-ce qu'il y a de pervers complètement dans cette spiritualité? Alors, les rapports sont attendus dans 2 ans.
Alors, c'est donc une histoire bouleversante hein, quand même. Hein? Ça a été une semaine bouleversante pour bon nombre de gens, un peu partout dans le monde, et y compris pour les gens de l'Arche, là, qu'on salue en tout cas pour leur courage et leur transparence. Alors, très brièvement, des suggestions de livres, des suggestions de spectacles, voilà. Allez-y, Louise-Édith, très brièvement.
Oui, alors, le Centre culturel chrétien recevra en conférence Jean-Philippe Perrault le 19 mars à 19h30. C'est au 2715 chemin de la Côte-Sainte-Catherine. C'est un théologien, professeur à la Faculté de théologie et des sciences religieuses de l'Université Laval. Et le thème sera « Jeunes et religion ».
Merci beaucoup. Simon.
3 nouveaux titres pour notre collection « La vie en question ». Peut-on douter quand on a la foi de Suzanne Rousseau? Qu'y a-t-il après la mort de Jocelyn Girard? Et les anges existent-ils vraiment de Jacques Gauthier?
Très bien. Alors, je vous rappelle que l'émission Foi et Turbulence est coproduite par l'Institut pastoral des Dominicains avec le soutien financier de la Fondation canadienne de la vidéo religieuse et de la Fondation Adieu va. Notre prochaine table ronde sur l'actualité aura lieu dans 2 semaines, soit le mercredi 18 mars 2020. On vous donne déjà rendez-vous. La semaine prochaine, à Foi et Turbulence, ce sera la formule magazine avec les collaborateurs réguliers Philippe Vaillancourt, Jonathan Guilbeault et Olivier Lefébure. Il y aura aussi une entrevue pour parler de la commémoration de l'assassinat de Monseigneur Oscar Romero, l'archevêque de San Salvador, il y a 40 ans. Merci à nos invités Louise-Édith Détrault, Simon Maltais et Louis Rousseau. Merci à Mathieu Lavigne, le coordonnateur de cette émission, et à Daniel Fortin à la régie. À l'animation, c'est François Gloutenay de l'agence de presse Présence. Merci d'être à l'écoute de Foi et Turbulence.